rock and roll music and why I preach against it. I believe that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today.
Rockologie. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Rockologie qui ce soir, comme l'a longtemps martelé dans son voix de garage Bertrand, sera consacrée à la power pop pour la simple et bonne raison que nous avons avec nous Christophe Bro. Bonsoir Christophe. Qui est venu ici pour nous parler de son ouvrage entièrement dédié à ce genre musical hybride. Alors, on va peut-être reprendre les choses dès le départ. La définition de la power pop selon Christophe Bro.
Voilà toute la question principale. Ben, en fait, la définition en trois mots, elle est sur le bouquin. Hein. Mélodie, chœur et rock'n'roll, j'ai pas pu trouver mieux. C'est vrai que c'est un genre hybride. Hein. Je viens de le dire à l'instant, qui n'a jamais pu en fait trouver une audience, je dirais, satisfaisante en France, toujours comparé à un autre style selon l'époque, donc ça a bien été toujours son problème. Mais c'est vraiment ça, hein, power pop, c'est une mélodie obligatoire, des chœurs, en soutien de la mélodie ou en contre-chant, et puis on n'oublie pas les guitares quand même.
Donc une alliance entre la mélodie, la force, puisqu'il y a mot power, il faut le dire. Et c'est un genre qui puise ses racines dans les années 60, avec les groupes que tu définis en début d'ouvrage. On peut citer évidemment les Beatles, les omniprésents Beatles, mais il y avait bien entendu les Kings. Il y avait toute une génération de musiciens. Donc c'est un peu la base de ce style musical. Et puis on peut peut-être dire aussi que la power pop a pris racine aux États-Unis dans la première partie des années 70.
Oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est, je dirais, tous les gens qui étaient déçus par la séparation des Beatles, je dirais que même la power pop a pu démarrer en avril 70, au moment de la séparation officielle du groupe. Et les gens se sont dit, mais attendez, qu'est-ce qui va nous rester le prog, le rock progressif d'un côté, le hard rock de l'autre, le glam ne touchant à l'époque que l'Angleterre. Il restait plus rien, donc ne pouvant se résoudre à choisir l'une de ces deux voies, alors forcément ça ne s'est pas fait aussi facilement, puisque pendant toutes les années 70, la première moitié, la power pop, le mot même n'existait pas pour définir ce qu'on appelle la power pop aujourd'hui.
D'accord, c'est une invention un petit peu tardive qui intervient un petit peu dans les années 90. Enfin, je ne sais pas si on peut dater un peu le truc.
Moi, je dirais que non, c'est Greg Shaw pour moi, le fondateur du label Bomp, qui en 78 a sorti un numéro spécial de son magazine, qui était en même temps son label, Bomp, et qui a regroupé sous l'appellation power pop l'essence des groupes dont je parle dans le bouquin. Et le terme, à partir de là, est resté. Mais en Europe, on l'a assimilé à la New Wave.
D'accord.
Et après, à chaque fois, ça a toujours été le problème, c'est que ça a toujours été comparé à quelque chose d'autre. Alors qu'en fait, la définition est très simple, mais c'est un petit peu difficile pour lui. Et dans les années 90, non, c'était déjà bien avant.
Bien avant, parce que je crois de mémoire, sans vouloir trop dire de bêtises, que Pete Townshend avait parlé aussi de power pop d'une façon assez fortuite dans une interview. Et puis, il y a un single des Jam, si je ne m'abuse, dans l'ouverture, l'illustre Paul Weller commence son titre en disant power pop en 79-78.
Oui. Alors, ces gens-là, en fait, utilisaient le mot, mais pas du tout dans le sens du style musical est défini aujourd'hui. Pour Pete Townshend, effectivement, ça a été le premier reconnu, en tout cas, à avoir prononcé le mot dans une interview où il voulait en fait se différencier des Beatles. Les Beatles faisaient de la pop et les Who, donc son groupe, faisaient de la pop un peu plus puissante, donc il a parlé en anglais de la power pop. Mais le terme est passé comme ça, sans faire aucune vague, personne n'y a prêté attention. Et c'est que 10 ans plus tard, donc Greg Shaw s'est souvenu sans doute de ça, mais donc ça ne définissait rien. toute façon, tous les groupes dont on parle au début, Badfinger, Big Star, Habsberries, à l'époque, on appelait ça Revival Pop, d'accord, voire Super Pop. Alors, c'est des noms qui ont disparu aujourd'hui, mais c'était absolument pas de la Power Pop à cette époque-là.
Alors justement, on va parler ainsi des pionniers. On avait évoqué en tout début les groupes emblématiques de la pop anglo-saxonne. Il y avait en 70, évidemment, Paul McCartney, mais il avait fait un émule dans ce qu'on peut appeler le concept de One Man Band, c'était Emmy Trod. Emmy Trod, justement, ouvre ta sélection de chroniques, parce qu'il faut le dire, dans le bouquin, c'est quand même une succession de chroniques qui éclaire la vie des artistes qui sont affiliés à ce registre musical. Et c'est assez bien agencé dans un... On peut lire sans avoir de continuité dans la lecture, ça peut être dévoré d'une façon épisodique. Exactement. C'est ce qui fait un peu l'attrait de cet ouvrage. C'est tout à fait, c'est digeste. Alors, Emmy Trod, il avait commencé en 65, par là, il était adolescent, il est originaire
de son groupe. Après, il y aura surtout son groupe, Merry Go Round,
c'est ça,
qui n'a fait qu'un petit, un succès d'estime. Hein.
Le morceau
s'appelle Live, qui sera même repris par les Bangles plus tard. Ça a été un succès d'estime. Maintenant, aujourd'hui, on considère que c'est un classique, mais ça n'a pas été un numéro 1. Ça n'a pas été un gros tube. Hein. Mais c'est sa chanson un peu phare.
D'accord, ça a été un tube tardif avec l'avènement des compilations de Nuggets.
Voilà.
Édité par Linké chez Elektra. On va écouter un extrait du premier album d'Emmy Trod, et puis on pourra peut-être réagir juste derrière. Et puis je sais pas comment on va faire. Comment on peut faire? On annonce un morceau, après on interagit, ou on fait un doublé? Comment tu veux procéder?
Je pense qu'on peut enchaîner deux morceaux.
Ouais.
Pour laisser parler la musique, et puis on interviendra. On présente le premier morceau, et on pourra un petit peu parler du second juste après.
D'accord. Emmy Trod avec Fresh as a Daisy en 70.
Precious a daisy, it's precious a daisy.
Ah. Vous êtes toujours à bord de Rockologie, l'émission à monter l'histoire du rock, qui ce soir parle de power pop avec Christophe Bro. Christophe Bro qui doit être encore avec nous. Ah, non. Bon, on va le rappeler. À l'instant, c'était un morceau de John Scoggins. John Scoggins qui avait écrit, enfin, conçu un unique album sorti en 75-76 et qui s'appelait Pressed for Time et qui s'affiliait aussi un petit peu à ce genre musical de la power pop, comme on l'avait détaillé en début de mission, à cheval entre deux décennies, années 60 et 70, avec une forte proportion à faire parler les harmonies vocales, la chose sucrée de la pop. Et puis il y a un petit côté Dwight Twiley, on va en reparler. Je vous laisse en compagnie de ce fond sonore. Je vais essayer de rejoindre Christophe Bro, qu'on a perdu. Nous avons retrouvé Christophe.
Oui, désolé. Ben, depuis Grenoble jusqu'à Rennes, où j'habite, voilà, il y a beaucoup
de distance.
On a dû se voilà. Perdre avec le brouillard.
On peut peut-être dire que ça se fait par téléphone, donc voilà. Oui. John Scoggins, à l'instant, donc, alors je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de cet unique album qui s'appelait Pressed for Time, qui était vendu.
Alors, en fait. Oui, je connaissais, mais bon, c'est vrai que ça a été une météorite, il n'a fait qu'un seul album, tu l'as bien dit, hein, avec le bon titre et la bonne année. Mais alors, ça a été le choix pour en garder 100, enfin 200 si je compte la liste B là-dedans, il faut en écouter 1000. Et donc forcément, ça veut dire qu'il y a énormément d'albums dont je ne parle pas, parce que faute de place, faute de temps, et puis on peut pas citer tout le monde, c'est quand même pas un annuaire. Et donc, John Scoggins, effectivement, fait partie de ces innombrables artistes qui sont passés voilà, comme un coup de vent, qui n'ont fait qu'un seul disque, qui n'ont eu aucun succès. C'est très bien, tu l'as passé, son disque est très bon, mais il y en a eu plein comme ça. Plein, et qu'on n'a même jamais été édité en CD, qu'on n'a jamais été réédité. Mmh. Alors on le trouve maintenant grâce à Internet, mais ils ont été des, on va pas dire des milliers, mais quelques centaines, surtout aux États-Unis. Voilà, à faire ce genre d'album et à disparaître.
C'est une des particularités aussi de ce genre musical de niche, puisque c'était vraiment un petit peu comme le garage. Chacun avait eu l'opportunité de pouvoir rêver à avoir un futur de musicien. Enfin bon, vraiment, c'était très ouvert. Parce qu'il y avait aussi ce phénomène de label indépendant, puisque la power pop, c'était pas... Je ne sais pas si on peut considérer... Certains étaient pros et d'autres étaient quand même plus, comme tu le dis, assez anonymes et ils avaient un niveau à des niveaux techniques assez différents. Et puis, ben, pour en venir à tout ça... Bon, excuse-moi. Oui, tu voulais
réagir ? Non, vas-y, ouais. Vas-y, je t'écoute.
On avait évoqué les Raspberries qui, pour moi, sont un cran en dessous de Big Star pour bien des raisons. On va reparler aussi du livre, de tes choix musicaux. Pourquoi avoir choisi le premier album des Raspberries ? Tiens, allez, une petite colle.
Parce que je trouvais que c'était le meilleur. Non, c'est pas forcément une réponse très objective, mais c'est toujours pareil, dès qu'on fait une liste, donc on fait des choix. Donc, en mon âme et conscience, je trouvais que le premier album était le meilleur, correspondait mieux au groupe, c'est là-dessus qu'il y avait leurs chansons les plus connues.
Il y avait
et c'est
le tube,
vrai que je cite quand même en fin d'article, si on peut dire ça, les trois autres albums. Donc si je les cite, c'est bien marqué également conseillé. Donc ce sont des albums qui sont bons, seulement je peux en choisir qu'un seul. Mmh. Alors si c'est un groupe qu'on a fait 15 ou plus, ben on va en mettre qu'un seul. C'est un petit peu le principe de ces bouquins où on présente une centaine de disques pour un genre musical. Mmh. Donc il faut faire des choix. Donc là, pour moi,
c'est porté sur le premier album, porté par le single Go All The Way.
Exactement.
Alors, moi, je préfère le dernier parce que je le sens un peu plus abouti, un peu moins sirupeux. Très bien. Et puis, le groupe Les Raspberries, c'est vraiment le groupe charnière par lequel est venue la power pop. Il y a Big Star, on en parlera un petit peu aussi pour le verse un peu plus sudiste, un peu plus authentique. Après, ça, c'est toujours subjectif, comme tu l'as dit. Les Raspberries, alors j'ai choisi du premier album puisque c'est celui que tu chroniques, Getting Moving, qui est vraiment un morceau assez rock'n'roll. Il y a ce côté aussi qui est vraiment intéressant dans le power pop. Il y a ce côté, comme on disait, mélodique, il y a ce côté musclé, il y a toute cette ambivalence. Et puis chez les Raspberries, au travers du personnage d'Eric Carmen, qui a un gros bagage, on va dire, musical, puisque c'est assez sophistiqué en dépit de ce que je dis. Je sais pas ce que t'en penses, les Raspberries, il y a un emprunt à la musique classique aussi, assez flagrant.
Pour moi, c'était vraiment un des grands groupes pop américains des 70s. Quoi. C'est-à-dire, je pense qu'ils sont arrivés à la mauvaise époque. C'est-à-dire que ce creux des années 70, cette première moitié, c'était pas du tout fait pour ce qu'ils faisaient comme musique. Quoi.
D'accord.
C'était ni prog, ni hard.
C'était
un peu le cul entre deux chaises, quoi. Donc,
c'était pas réellement dans l'attente du public. Ça obéissait pas à une norme, on va dire, au niveau des modes, quoi. C'est ce que tu veux dire.
Pas du tout dans la mode de l'époque. C'est pour ça que ça a eu un succès d'estime. Mais c'est vrai que c'était considéré comme un petit groupe, quoi.
D'accord. Alors, Getting Moving, et puis juste derrière, on enchaînera avec un groupe qui se réclame un petit peu de cet héritage, les Action, qui eux, avaient, pour illustrer un peu le côté indies, qualité sonore impeccable, musique assez intéressante, plus qu'intéressante, voilà.
The Action, parce
voilà.
Qu'il y avait un groupe 60s anglais qui était un groupe mode,
exactement.
Très bien, mais bon, c'est différent.
Voilà, il faut pas cultiver la confusion. Les Raspberries de Cleveland en direct dans Oncologie. Surtout ne raccroche pas.
Non, je reste. Promis.
Get it moving.
vous êtes toujours à bord de Rockologie, l'émission à remonter l'histoire du rock, qui ce soir, nous avons invité Christophe Bro, auteur du livre La Power Pop, Mélodie, Cœur et Rock'n'Roll entre 70 et 2019, au mot elle reste. Alors Christophe...
Oui.
Ouais, c'est bon. Il est là, on l'a pas perdu. Les Actions, c'est vraiment un pur produit de l'Ohio. Enfin,
ouais.
Ça se réclame vraiment de cet héritage qu'on avait vu au travers du prisme des Raspberries. Quelque chose d'assez, on va dire, très mélodique. Avec, même si c'est là, c'est moins rock'n'roll que ce qu'on a écouté avec les Raspberries. Il y a, alors je sais pas comment je pourrais définir la chose. Il y a énormément de, il y a du coffre, il y a de la voix. Il y en avait chez Eric Carmen, il y en avait chez Patrick, non, Michael Perkitzer, qui était le frère cadet de Lux Interior. Donc un groupe qui aurait peut-être mérité mieux, parce
oui.
que, oui.
Bah oui, c'est l'éternel problème de la power pop, c'est-à-dire que tu sais que le bouquin a failli s'appeler quand même s'intituler Le Rock des Losers, quoi. C'est-à-dire qu'on a un taux incroyable de déveine, de malchance, de mauvais plans, de c'est invraisemblable parce qu'il y avait quand même un potentiel. Quand on entend toutes ces chansons, là, c'est effectivement très très pop avec action, un côté jungle pop, comme on dit, quand c'est plus acoustique comme ça. Et donc, il y avait un potentiel incroyable pour plein de groupes. Et parce que mauvaise décision, mauvais manager, mauvais plan, enfin les éternels problèmes habituels des groupes de rock, ça n'a pas marché. Donc après, il faut, à talent égal, il faut une part de chance, quoi. Et là, la part de chance, c'est difficilement préparable. On peut être super bon musicien, penser faire les bonnes choses dans le bon ordre, et puis patatras, tout se casse la figure, parce que voilà, c'est la faute à pas de chance, comme on dit.
Bah,
et dans le cas de la power pop, c'était très 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 souvent le cas. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des centaines de groupes, et j'en ai mis quelques-uns dans le bouquin, qui méritent vraiment d'être découverts ou redécouverts aujourd'hui, parce que en plus, je trouve que parce que c'est très mélodique, ça a bien vieilli.
Difficile de effectivement, faire... Effectivement, il y a ce côté un petit peu intemporel, il y a le côté vraiment très catchy, très immédiat. Et puis justement, de rendez-vous manqué, on va en parler là, dans l'instant qui suit, le Big Star qui est un petit peu la loose totale du genre musical, qui a été retrouvé, qui a été célébré d'une façon posthume, puisque c'est vraiment l'archétype du groupe maudit. Une mort prématurée avec Chris Benn en 78, Alex Chilton qui est un excellent songwriter mais qui n'a pas pu décoller de ses problèmes de dope puis d'alcoolisme, et puis surtout Big Star qui ouvre la boîte à Pandore. Je pense notamment au studio Ardent et puis toute la clique Memphis, comme quoi Memphis n'est pas uniquement une ville noire américaine, elle a su être blanche et pop.
Ah, complètement, et puis de toute façon, faut pas oublier que Memphis était quand même là, Elvis était pas très loin.
Ah oui, c'est ça aussi.
10 ans auparavant. Non, mais c'est vrai que Big Star, des veines complètes, talent énorme, deux albums seulement, je dirais, de leur vivant, avant le décès de Chris Bell, qui était déjà barré avant. Alors c'est vrai qu'en plus de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les problèmes d'alcool et de drogue, bon, qui sont assez classé souvent, dangereux pour le rock, même pour d'autres, se rajoute à ça, et c'est vrai que, il y a des disputes sans cesse entre musiciens, des bouderies, des départs, donc tout ça n'est pas bien, c'est pas une bonne ambiance pour faire vraiment quelque chose. Dans la durée, quoi. Un groupe ne peut pas durer, il passe son temps à se mettre sur la tronche comme ça, c'est compliqué. Quoi.
C'est le cas de le dire, d'autant plus que Big Star, derrière, il y a quand même un avant, un après. Big Star, ils ne sont pas tombés de...
Complètement.
Voilà, il y a des groupes derrière, il y a eu Rock City, Iceberg, qui étaient les groupes respectifs de Chris Bell et puis Andy Hummel. Si je veux pas dire.
Oui, puis même Alex Chilton, faut pas oublier que c'était pas un petit jeune.
Ah non, mais c'est pas.
C'était un jeune, mais qui démarrait pas. Il avait fait les Box Tops.
Exactement.
Il avait donc chanté un tube qui s'appelait The Letter, et il avait quasiment 16 ans.
Mais c'était quand même sous un autre registre, quoi. C'était plus rhythm and blues, alors qu'eux, ils étaient vraiment orientés.
Pas bon, ce que je veux dire, c'est que c'était pas un gars qui démarrait vraiment sa carrière. Il avait démarré très jeune. Big Star, ça aurait dû être son groupe de la maturité. Le groupe qui vraiment devait faire décoller sa carrière. Et puis bon, bah après, voilà, il a fait certains groupes, il a fait des trucs en solo, il a fait de la production, il est venu en Europe, il a fait des trucs acoustiques. Mais tout ça, ça sent un petit peu le système D, pas du tout à la hauteur de son talent. Quoi.
Et c'est un peu ce qui caractérise la plupart des productions qui n'ont pas eu le loisir ou carrément la chance d'être signé sur major. C'est un peu le problème de la power pop, hein. Côté
oui,
artisanal.
Ça c'est sûr, mais il faut bien te dire que ça n'a pas trop changé, c'est même accentué en plus avec Internet. Aujourd'hui, sur 10 groupes, il n'y en a qu'un, et encore, mon chiffre est peut-être un peu fort, dont on va se souvenir. Mmh. Les 9 autres vont disparaître, 9 groupes ou artistes. Mmh. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même un certain courage de la part des musiciens à se dire, à se lancer dans quelque chose en disant, bah oui, mais pour nous, ça va marcher. Bah, tant mieux, les gars, allez-y, on attend que ça. Mais c'est quand même super compliqué, quoi. Et à l'époque, ça l'était déjà. Bon, c'était des passages obligés vers les maisons de disques, hein. Il n'y avait pas Internet pour faire son petit truc dans son coin. Mmh. Donc, les maisons de disques étaient en fait les reines du pétrole. C'est-à-dire que c'était elles qui décidaient. Ça, on prend, ça, on prend pas. C'est-à-dire, sans maisons de disques, on pouvait créer une structure indépendante. Mais avec quelle audience, quoi. Est-ce que ça allait être distribué partout? Parfois, c'était distribué dans un seul État, et pas du tout dans tous les États-Unis. Donc, ça n'apparaissait pas dans les ventes du Billboard. Donc, il n'y avait pas de promo nationale. Donc, après, pas de vente. C'était un peu infernal, quand même.
C'est ce dont a été victime Big Star.
Exactement.
Faut le dire.
Big Star et d'autres, hein, et d'autres.
Ah oui, certainement, mais Big Star, c'est vraiment le groupe emblématique de toute une portée de musiciens se réclamant du rock alternatif. Bah, je pense notamment à REM, qui en découlent directement toute la scène, on va dire, alternative. Hein.
Ah oui,
les Beatles ont initié un peu le mouvement, voilà, et puis bah, derrière, il y a eu Big Star qui a eu justement insufflé un côté un petit peu... Comment dirais-je, c'est la rencontre entre le folk rock des Birds, le côté jungle pop comme tu l'as pu le dire, le côté un petit peu désenchanté des deux songwriters qui étaient un petit peu voilà, et puis derrière il y avait tout le contingent et puis d'excellents ingénieurs du son qui ont façonné ce son typique d'Ardent.
Les beaux studios Ardent. Et il faut quand même dire que même encore aujourd'hui, quand j'évoque Big Star dans un bouquin sur la power pop, il y a des gens pas d'accord. Pour eux, ils vont dire non, il y a un côté beaucoup plus soul, un côté rhythm and blues. Et ils vont te citer plein de styles différents qui sont tout à fait recevables. Mmh. Et pour eux, la power pop a encore ce côté un peu, petit genre, truc un peu de rock FM en quelque sorte.
D'accord.
Et ils ne classent pas Big Star là-dedans.
D'accord.
Moi je l'ai mis, donc voilà.
je pense que t'es pas le seul à les classer là-dedans, puisque c'est ni plus ni moins que la continuité de la pop anglo-saxonne, mais revisitée à la sauce du Sud. On va écouter un extrait de Big Star, pour ceux qui les connaissent pas. When My Baby Beside... Me, c'est ça. J'arrive même plus à me relire. Un titre du premier album que tu plébiscites. Des trois albums, il n'y en a pas un seul que j'ai pu départager. Les deux premiers sont vraiment indissociables l'un de l'autre.
Voilà,
puis le troisième.
Il fallait en mettre un, j'ai
voilà.
Dû choisir.
c'est l'éternel dilemme. Puis le troisième, on peut quand même souligner qu'il est quand même beaucoup plus, on va dire, dépressif, un peu moins...
Ouais, il a son côté effectivement d'une grande beauté, mais c'est moins immédiat en quelque sorte.
Allez, Big Star, et puis derrière, on écoutera un extrait d'un groupe de la maison de disques Ardent Hot Dog.
Ouais.
Thank you.
C'est toujours Ecologie sur les ondes de Campus Grenoble 90.8 avec Christophe Brault ce soir, venu nous parler de son ouvrage sur la power pop, Homo le reste. Alors Christophe, on a été à Memphis avec l'évocation de la Big Star et puis bah, le label Ardent. Et puis là, à l'instant, c'était un extrait de l'unique album de Hot Dog. Alors, beaucoup de similitudes entre les deux groupes, des balades un petit peu désenchantées qu'on pouvait retrouver sur le premier et deuxième album de Big Star, je pense, notamment à Watch the Sunrise.
Oui, effectivement. Je crois que les... Alors, moi, j'avais entendu parler des Hot Dogs avec un S, bon, ça va être le même groupe. Je crois qu'ils ont fait un autre album plus tard, mais dans un style beaucoup plus sudiste, donc on va peut-être... voilà, c'est un autre sujet.
C'était pour l'anecdote.
Donc, bah, c'est un peu comme John Scoggins tout à l'heure, ça fait partie des groupes
one-shot.
Qui étaient un peu à la porte de ma seconde playlist, et voilà, donc mais c'est vrai que la scène de Memphis avec Big Star en vedette a proposé quelques groupes comme ça, très intéressant, et malheureusement sans, alors là du coup, sans aucun succès à l'époque, même après la, je dirais la vie du groupe, on en a très très peu parlé, quoi.
Mmh. On va faire un petit bond dans le temps, puisque la power pop ne se résume pas qu'au début des années 70. On va aller en 60, alors je vais reprendre le livre. Il y a eu un petit changement dans les playlists. On va parler de Cheap Trick pour dire que c'est un genre américain à part entière et que chaque groupe avec ses particularités. Et puis bah, tu dis comme ça dans ton livre, Cheap Trick représente la version hard de la power pop. C'est très juste.
Tout à fait. Il y a un petit côté, alors, c'est pareil pour les Américains, il y a un petit côté rock FM, alors sans que ça soit péjoratif. Un côté rock FM, c'est dire que ça passe sur les radios FM, ça passe donc pour un public plus large. Et puis ce public-là réclame quand même un peu de coffre, un peu de son derrière les mélodies. Donc effectivement, c'est pour ça que nous, rapidement européens, on a mis tout ça dans le même panier. Mais heureusement, enfin pour moi en tout cas, ça vaut pas. C'est pas la même chose que du rock FM, hein, Cheap Trick. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus. Un petit peu plus dur en fait que la pop, de la power pop, ça c'est indéniable. Mais c'est vraiment un groupe typiquement américain qui a eu un succès colossal au Japon d'ailleurs. Mmh, mmh. Ils ont même fait un célèbre live au Budokan, qui a été vraiment c'est un peu l'album qui les a révélés. Et en France, ça a toujours été un peu timide, Cheap Trick. Hein. C'est un album, c'est un groupe qui est très peu connu, uniquement par les fans du genre ou du groupe évidemment. Mais voilà, ça n'a pas eu une audience terrible. Hein. Pourtant, c'est un. Je pense que ça pourrait avoir. Il n'est jamais trop tard. Il y a quand même les trois albums, les trois premiers albums studio qui sont vraiment bien, le live aussi. Et puis il y a, pour moi, il y a quelques tubes potentiels, mais bon. Et c'est toujours pareil, quoi.
C'est peut-être trop américain pour avoir marché chez nous. Et puis bah, en Angleterre, très peu aussi.
Ouais.
Bah, je pense qu'à l'occasion, on se recontactera, on fera d'autres émissions, si bien sûr tu es partant. Parce que... Pardon ?
Non, j'y vais avec plaisir, bien sûr.
Parce que je pense que le sillon est inépuisable et il y a énormément de choses à dire, hein, ne serait-ce que sur par rapport au bouquin et puis par rapport aux différentes facettes du genre, et puis bah, étaler un petit peu les époques, parce que condenser ça en une heure, c'est un petit peu... c'est suicidaire. Pas suicidaire, non, c'est un peu fort. Mais...
Que ça passe très très vite.
Ça passe vite. Dernière chose, Cheap Trick, on avait évoqué bah, les Beatles, mais un autre groupe qui a énormément influencé le groupe de Chicago, c'était The Move, le groupe de Roy Wood. Tu l'évoques aussi dans ton livre.
Oui, j'y tenais parce que The Move, alors, forcément, ça n'a pas l'audience des Beatles.
Alors, ils ont aussi une particularité, ouais.
Ils arrivent en pleine vague psychédélique, ils font ce qu'on appelle aujourd'hui de la pop psych, c'est-à-dire ce mélange, cette contraction de pop et de psychédélia, en quelque sorte. Mm-hmm. Et ce sont des singles qui sont pour moi intemporels. En plus, ils avaient un côté un peu fou furieux scéniquement. On peut dire qu'avec des cinglés comme Roy Wood, où ils s'amusaient à destroyer des téléviseurs sur scène. Alors que c'était un groupe qui qui avait une image assez gentille. C'était de la pop qui passait même sur la BBC Radio 1. Mmh. C'était pas, je dirais, les gros méchants des Who, etc. Ils avaient une image assez pop, mais sur scène, ils étaient assez violents. Mais nous, ce qu'on a retenu, n'ayant pas vu le groupe sur scène, ce sont ces disques. Alors, ils ont fait une carrière très courte, hein. Ça a duré que quelques années, de 67 à 71, puisque... Mmh. Faut savoir quand même, c'est que la fin de The Move s'est transformée progressivement sous la houlette de Jeff Lynne en Electric Light Orchestra.
Et enfin, oui, il est
arrivé
parti en solo,
tardivement dans le groupe, et il a monté après Hello, qui doit beaucoup aux Beatles. Enfin bon, c'est un peu une autre histoire. Mais le premier Move, celui où il y avait au moment Roy Wood, qui fondera après Wizard, c'est vraiment, pour moi, ça fait partie vraiment des groupes qu'il faut redécouvrir aujourd'hui. Ça reste très moderne, très pertinent. Il y a des chansons absolument incroyables, qui ont ce sens mélodique, et puis toutes les accroches, les gimmicks de l'époque psyché et je dirais pré-progressive en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils vont vers le côté un petit peu plus sophistiqué, mais sans tomber dans le prog. Qui est un peu la sommoire de l'époque quand même.
C'est l'antidote, la power pop, c'est l'antidote
complètement.
À l'ennui institué par le prog, bien que le prog souffre quand même d'une image assez péjorative, dans la mesure où c'est vraiment la musique c'est une vitrine de la virtuosité, chose qui n'était pas...
Montrer sa dextérité musicale, mais le prog est intéressant dans ses premières années, c'est comme un peu tous les styles musicaux. C'est après, il commence un peu à...
Il y a des dérives.
à enfler. Et puis, souvent, ce sont les premiers groupes qui sont les meilleurs. Hein. Après, il y a le train qui s'emballe, etc. Mais bon, pour le hard rock, c'est pareil. Et puis, pour plein d'autres styles, c'est pareil aussi. Hein.
Cheap Trick, et puis on enchaînera avec un autre groupe que tu chroniques dans le cadre de son unique album. C'est Blue Ash, un groupe aussi originaire de la... banlieue de Cleveland.
Youngstown.
Voilà, Youngstown. Le groupe de Frank Zekic qui sera un grand pote à Steve Bator. Mais ça, c'est comme on l'a dit, on aura d'autres occasions pour développer un peu tout ça.
Oui.
Cheap Trick et puis Blue Ash et puis après, on verra. Allez, restez bien à l'écoute de l'émission.
Ok.
Yeah. Look at you now. Take number one. This is Sesame Park.
Okay, ready? One, two, three.
J'ai un petit peu écourté parce que le temps passe. Blue Ash, aussi un groupe aussi qui a un petit peu, qui a une existence un petit peu éphémère. Deux albums, espacés sur 5-6 ans. T'en parles dans ton livre. Est-ce que tu as quelque chose à dire tu veux dire quelque chose par rapport à ton ouvrage?
Allez l'acheter.
Oui, c'est une bonne chose.
Non. Blague à part. Moi, l'idée de ce bouquin, c'est que c'était quand j'ai commencé à bosser dessus. C'est un genre qui m'intéressait. Il n'y avait aucun bouquin en français, je crois,
ouais, c'est ça.
Sur le sujet. Je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'il n'y ait rien eu, alors que maintenant, on trouve quand même beaucoup de livres sur le rock en général en français. Il n'y avait rien sur la pop. Donc, ça m'a un peu motivé pour en faire un. Voilà, alors, je raconte ça avec une liste d'albums, tu l'as dit, donc une centaine d'albums choisis dans cette grande aventure. Puis je fais une petite introduction où je raconte un peu, très brièvement, l'histoire du genre.
Et puis derrière, tu donnes des pistes pour ceux qui veulent plus s'informer avec des sites internet, des noms de labels, voilà. Et puis des choses, des pistes pour un peu plus explorer le genre.
Une deuxième liste qui n'est pas une liste de rejet, hein, ce qui est bon, une deuxième liste intéressante, j'espère. Beaucoup de blogs, de podcasts à travers le monde. Ça, c'était très, très compliqué à faire pour trouver, vérifier les infos, vérifier que les sites existent encore. Ça, c'est, je dois dire, c'est un peu une galère, mais bon, je suis très content d'avoir fait ça. Ça donne effectivement des pistes pour ceux qui veulent creuser et ne pas se contenter uniquement. Mais je conseille la lecture du bouquin avec Internet grand ouvert. Vous allez vérifier à chaque fois si vous n'avez pas les disques. Vous allez écouter, comme ça, donc vous lisez le bouquin, ça vous donne envie, vous allez écouter l'album, et puis après vous débrouillez pour essayer de le trouver, parce que tous ne sont pas forcément bien distribués encore.
Il est disponible pour la plupart du temps en apport. écoute, on va se quitter avec un morceau et puis en espérant faire une deuxième émission sur le sujet parce que, comme je l'ai dit, c'est un filon. Oui.
Non, je disais oui, avec plaisir, une deuxième émission.
2020, tu avais parlé de la New Wave. En voilà un beau spécimen de New Wave avec l'arrivée des synthétiseurs, avec le ouais. titre emblématique Yellow Pills. Et puis, on va écouter Remember the Lightning. Merci Christophe, vous avoir fait gentillesse. Et puis, à bientôt. Merci, au revoir.
Merci, bonne soirée.
Roll music and why I preach against it. I believe that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today.
Écologie.